Je m'inquiète un peu par rapport à l'insertion professionnelle, surtout qu'on a un long parcours académique. Avant de venir ici en thèse, j'ai essayé avec l'industrie, avec les entreprises, j'ai passé plein d'entretiens. Et ce que j'ai remarqué, peut-être c'est l'aspect pratique du processus de recrutement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne prépare pas vraiment, en fait, ce statut doctorant, c'est trop pointu pour eux. Ils cherchent quelqu'un, en fait, d'actif, pratique, en fait, celui qui a pratiqué dans les écoles d'ingé.
C'est pour ça qu'ils adorent le double. Là, l'idéal pour eux, c'est quand on échange avec eux, l'idéal chez les employeurs, c'est les deux. Il est docteur et il est ingénieur. Ça, ils adorent. Alors ça, si vous avez les deux, c'est sûr, c'est royal. Maintenant, on veut toujours le mieux, on veut toujours plus, on a toujours moins. Forcément, quand on est très spécialiste, on n'est pas généraliste. Ben voilà, c'est toujours pareil, on a les défauts de nos qualités aussi. L'idée, c'est d'être au clair avec ce que vous faites. Et peut-être qu'il y a un moment, peut-être que sur justement votre CV, il faudra peut-être moins être spécialiste et plus généraliste pour pouvoir séduire davantage. C'est une question de travail, de mise en avant des paramètres. Donc je ne dis pas qu'on ment, parce que les gens disent « ouais, vous mentez sur le CV ». Non, c'est juste « je ne dis pas tout ». Je ne mets en avant que les choses qui vont faire que je vais décrocher l'entretien ou que je vais intéresser l'autre. Si j'ai affaire à un professionnel qui cherche un généraliste praticien et qui a peur de la version académique, je ne vais pas mettre en avant en premier ma thèse. Je vais peut-être mettre davantage en avant mes compétences techniques. Parce que ça, c'est les idées préconçues. Voilà, là, il y a quelqu'un qui apparemment réagit bien.
J'ai la même impression avec l'industrie privée que le doctorat, c'est pas vraiment ou forcément reconnu comme quelque chose du bien, parce que c'est une spécialisation dans une part, et en plus c'est 3 ans en plus à l'université pour eux, parfois, pas pour tous mais très souvent. Donc on m'a conseillé d'éviter le mot doctorat et de mettre CDD 3 ans à la recherche, comme enseignante et chercheur dans tel ou tel domaine. Mais ouais, c'est, peut-être ça dépend aussi des entreprises, mais moi j'ai aussi cette impression. J'ai passé quelques entretiens et c'était toujours la question, mais pourquoi vous êtes resté à l'université, vous n'avez pas envie de travailler? Et ça, c'est une question qui est un peu embêtante.
D'ailleurs, si vous le mettez votre doctorat dans votre CV, vous n'êtes pas doctorat dans la partie expérience. Vous êtes en contrat, vous êtes contractuel. Donc il faut absolument que vous mettiez une fonction. Ça peut être, alors, si vous ne savez pas, il y a chargé de mission, hein, ça marche très bien. Consultant aussi, parce que pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous intervenez au sein du labo, et puis vous développez vos missions. Vous êtes chargé de mission quand vous êtes en thèse, par exemple.
Aussi, un deuxième point, c'est par rapport à la polyvalence. J'ai discuté avec des managers, ils ont dit qu'on ne préfère pas quelqu'un de polyvalent, on cherche quelqu'un de plutôt spécialiste. Alors que si on change un jour en fait de domaine, et là on est côté, je veux dire, oui, vraiment ingénieur mécanique, ingénieur électronique ou informaticien, d'un coup, c'est vraiment, moi je le vois, double compétence ou triple compétence par rapport aux industriels, préfèrent pas ça. Et j'étais vraiment embêté, j'étais en train de refaire mon CV et cacher l'aspect tout ce qui est en dehors de leur mission.
Alors pour résumer, moi je vois les choses très simplement. Le CV, outil très dangereux, j'évite, mais je suis obligée quand je réponds à une offre. Sinon, candidature spontanée, pas forcément de CV. Ça peut être une très belle lettre, ancrage, accroche dans le mail. Et vous proposez un entretien, une offre de collaboration, vous aimeriez échanger sur leurs besoins. Et s'ils veulent, vous viendrez avec votre CV, mais c'est dans la valise et vous avez l'entretien. Et sinon, effectivement, les réponses à annonce, vous êtes obligé de faire un CV. Donc là, en fait, c'est en fonction des cibles. Vous êtes au courant de ça, donc vous allez façonner votre CV, donc mettre en avant ce qu'il faut pour lui faire plaisir. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois que vous avez envie de le séduire, vous n'allez pas dire que vous ronflez, vous n'allez pas dire que vous êtes très désagréable tant que vous n'avez pas bu votre café le matin. Vous allez vous dire que vous achetez des fleurs toutes les semaines, que vous êtes très à l'écoute, que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défauts. C'est-à-dire que vous allez mettre en avant vos qualités. En entretien, c'est pareil. La séduction, par définition, on met en avant ce qu'on possède en plus positif. Ça ne veut pas dire que le reste, on le ment, on ne le dit pas, c'est tout. Ne pas dire, ce n'est pas mentir. Par contre, si on vous pose une question concrète sur « est-ce que vous ronflez le matin ?», si vous dites non, là, vous mentez. Ça, c'est un autre problème. Là, je ne suis plus d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Le CV, c'est pareil. C'est qu'est-ce que je vais mettre en avant pour obtenir un entretien? C'est quoi mon objectif? Décrocher un entretien. Donc, si je sais que ce monsieur-là, dans cet environnement-là, estime que la polyvalence est gênante et il a envie plus de me voir spécialiste 2, je vais faire en sorte que mon CV mette en avant que je suis spécialiste 2, alors que peut-être que mon voisin d'à côté, il va penser tout le contraire alors qu'il est lui aussi dans la même fonction. Parce que pour info, je crois, ils ne sont jamais d'accord donc, entre eux. Tout dépend de l'environnement, des fonctions, de ce qu'on attend de vous. Donc après un entretien, vous pourrez peut-être mettre en avant votre polyvalence, mais lui, il sera rassuré. Parce qu'il saura que vous avez cette double compétence, mais que ça ne vous empêche pas d'être spécialiste. Et il n'y a plus de problème. Au contraire, ça devient un atout. Mais il faut éviter de faire peur. Il faut éviter qu'il n'émette des hypothèses négatives. Est-ce que tout ce qui est dans mon CV n'est que quelque chose qui sera positif pour celui qui va me lire? C'est pour ça que le CV ne fait qu'une page. On ne met que les choses, on ne met que la mousse du café, vous voyez? On met que l'essentiel pour le laisser rêver, laissez-le s'imaginer ce qu'il a envie. Laissez du mystère, laissez-lui d'avoir envie de vous rencontrer. Moi, quand je lis un CV de 3 pages, je souffle. Je me dis, oh, il va me bombarder de questions, l'entretien ne durera jamais 20 minutes. Bon, il n'est pas assez bref et concis, oh là là, j'ai peur. Et puis, il y a tellement d'informations qu'à un moment, il y a des informations qui vont être négatives pour moi. Parce que pour vous, vous estimez que c'est positif, mais moi, je vais interpréter négativement. On ne sait pas. Donc, moins on en dit, moins on prend de risques. Il faut mettre que les choses où vous êtes sûr que ça va plaire. Parce qu'on est dans une séduction. Parce que le but, c'est de décrocher l'entretien. Après, il faut assumer derrière aussi. Hein. Il y a justement des formations pour travailler sur comment je verbalise, comment je me mets en avant. Même si vos mandarins ne sont pas d'accord, c'est essentiel. Bon, pour info, j'en connais, ils sont très sympathiques, très à l'écoute de ça et complètement partants pour que vous fassiez ça, hein, ce genre de formation. Attention, il ne faut pas non plus, on est un peu en train de critiquer là, mais heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait plus de thèse. Hein. Heureusement qu'il y a des passionnés aussi, parce que souvent, ils sont peut-être désagréables, mais ils sont aussi passionnés. Hein. Et parfois, ils oublient aussi certaines aisances relationnelles, parce qu'ils sont tellement dans leur vécu à penser thèse, à vivre thèse, à penser recherche et à ne vivre que de ça, qu'ils en oublient d'autres choses aussi. On ne peut pas trop leur en vouloir non plus. Il y a un système aussi qui fait que bah, ils rentrent dans un ancrage qui... Enfin, je ne vais pas non plus les plaindre, hein, mais voilà, il y a aussi ce problème-là, hein, qui est propre à la profession, à la fonction.
Je rebondis sur la question des défauts. Souvent, dans un entretien, on nous pose la question « Quel considériez-vous que c'est le plus grand défaut ?» Donc là, on ne peut plus s'échapper, faut être honnête. Comment on peut répondre?
Dites-vous que la personne qui vous pose la question, elle a plein de défauts. Qu'on a tous des défauts et des qualités, c'est ce qui fait notre charme. Et qu'on ne peut pas avoir... on a forcément les défauts de nos qualités et vice-versa. Par contre, moi, ça m'énerve quand on me dit toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire que généralement, c'est ce que je dis souvent, c'est je suis ponctuel, dynamique, persévérant, et dans mes défauts, c'est que je suis trop curieuse, ou je suis trop persévérant, ou trop méticuleux. Ou je ne sais pas déléguer dans les défauts. Voilà, ça c'est typique. Alors vous faites des entretiens, vous voyez 10 personnes différentes, avec des horizons incroyablement différents, et elles vous sortent les mêmes réponses formatées. Donc si vous faites réellement ce travail, de faire un bilan, de réfléchir par vous-même à quels sont mes défauts, il y en a 50, vous en avez une cinquantaine, et vous avez une cinquantaine de qualités, vous allez vraiment aller chercher au fond les choses. Et il y a des formations, vous demanderez, il n'a pas eu son entretien encore malheureusement, mais pour ceux que j'ai vus, bah là, votre collègue là, il a fait la formation sur le projet, on a eu un entretien, on a bien travaillé votre profil, je crois, j'espère que vous en souvenez un petit peu, on ne va pas faire le test hein, quand même, mais voilà, on travaille réellement, si vous voulez, moi je dis souvent, l'idée c'est qu'on a un profil, et c'est parce qu'on a ces défauts-là qu'on est ce qu'on est, voyez. Et du coup, à partir du moment où, quand on vous écoute, on comprend vos défauts et vos qualités, et ben du coup, on se projette. Si c'est pas clair, si c'est artificiel, ça c'est le gros problème, le côté artificiel des choses, parce que on est dans de la séduction, mais on n'est pas sincère, vous le savez, ça marche pas. Il y a un moment, il faut de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout, mais ce qu'on dit, on le pense vraiment. Donc on assume complètement ses défauts, sauf qu'on choisit les défauts les moins gênants pour ce poste-là. Moi, j'ai quelqu'un pour un recrutement à McDo qui m'a dit que son défaut, c'est qu'il était toujours en retard. C'est pas possible. Chez McDo, c'est pas possible, par définition. Vous voyez, je me dis, il a fait exprès, c'est pas possible. Là, par contre, c'est autre chose, il sabote. Hein. Mais vous voyez, il y a des postes où c'est pas négociable, il y a des défauts qui sont pas négociables. Si vous répondez à un poste où vous allez rédiger des appels d'offres et que vous dites que vous n'avez pas de facilité rédactionnelle dans vos défauts... Je ne peux pas vous prendre, je ne peux pas me projeter avec vous. Okay. Donc, il y a les défauts les moins gênants pour le poste, mais il faut partir d'une liste. Et à chaque entretien, vous devez retravailler vos défauts et vos qualités pour chaque entretien. Parce que les savoir-être sont essentiels et c'est ce qui fait que vous allez être pris ou pas. Le reste est une évidence, hein, on n'en parle pas. C'est sûr que si vous n'avez pas les compétences et les connaissances, on ne vous reçoit même pas en entretien. Donc ça, c'est un autre problème, c'est résolu. Mais une fois que vous êtes en entretien, vous n'avez plus qu'à confirmer qu'on pense ce qu'on pense de vous. Ce qu'on pense de vous, c'est que vous avez les compétences, sinon vous n'aurez pas reçu un entretien. Sinon, on est un mauvais recruteur. Si on a bien fait son boulot et que vous avez fait un bon CV, logiquement, les compétences, elles sont là. Ce qu'on va vérifier, c'est vos savoir-être. Et après, par contre, le professionnel, il vous reposera des questions techniques. Mais on n'est pas comme chez IKEA où on vous demande de monter le meuble en 5 minutes. C'est-à-dire, on ne met pas aujourd'hui en entretien les gens en situation. Sinon, on ne travaillerait que sur les compétences. On ne vous dit pas, tiens, avant de vous prendre en labo, vous allez faire la manip, là, l'appaillage, je vous regarde. Et si vous faites dans le temps que je veux, là, avec la bonne analyse, je vous recrute. Ça ne se passe pas comme ça. On vous demande d'en parler, de le verbaliser. On vous fait confiance, on se projette avec vous. Voilà. Donc le projet à court, moyen et long terme, il faut l'avoir hein, quand vous allez en entretien. Il y a au-delà du poste, c'est comment je me projette sur le poste. Donc avez-vous des questions? Oui, vous en avez, parce que ça, vous l'avez toujours, le avez-vous des questions hein. Donc s'il vous plaît, il y a des questions et pas juste où sont les toilettes ou bah non, j'ai pas de questions. Quoi, hein. Il faut qu'il y ait des questions sur la projection du poste. Si demain je commence, quelles sont les questions que j'ai envie de poser? Est-ce que je peux partir de l'entretien en ayant tout en tête? Non, il y a souvent des questions. Donc vous avez des questions.